Audition.
Orientation.
Intégration.
Transition.
C'est l'heure de Génération. Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Génération sur Radio G. Je suis Pierre Benoît.
Génération, c'est l'émission du 101.5 FM qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Je suis Mehdi.
Pour répondre aux problématiques inhérentes à la jeunesse, on laisse la parole aux structures et acteurs du territoire qui apportent des solutions aux jeunes angevins.
Mais on laisse aussi les jeunes témoigner de leurs expériences.
Aujourd'hui, on entendra les Noxambules, Alia et la mission locale angevine.
Ainsi que Socia BIM pour l'intégration des étudiants étrangers, ou encore Aurélie Pelletier qui témoignera de son service civique à la Fédération des œuvres laïques de Maine-et-Loire.
Vous êtes bien à l'écoute de Génération sur Radio G.
Bonne émission.
Et si on se mettait un peu au vert dans Génération sur Radio G, on vous propose maintenant de faire quelques petits gestes du quotidien avec Unicité Angers qui vont vous aider à réduire votre consommation d'électricité, d'eau, le volume de vos déchets ou encore à éviter le gaspillage alimentaire. Bonjour à Émilie, Antonin, bonjour à Isabelle et Ruth.
Bonjour,
bonjour.
Bonjour.
Alors Émilie, tu es coordinatrice de mission à Unicité Angers pour le service civique VTEE. Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire VTEE ?
Alors VTEE, ça veut dire volontaire de la transition énergétique et écologique.
Il y a trois objectifs, sensibiliser aux enjeux de la transition verte, accompagner les habitants dans la maîtrise de leur consommation, lutter contre la fracture numérique, si je ne me trompe pas. Ça se concrétise comment ces actions sur le terrain du coup ?
Alors en fait, c'est d'accompagner les gens, d'être au plus près des habitants pour les aider à maîtriser leur consommation d'électricité, notamment via le numérique, c'est
ouais.
Une porte d'entrée en tout cas, sur par exemple Enedis à mes côtés, c'est comment ça fonctionne, quelle utilité il a. Donc là, les volontaires en fait, ils sont amenés à présenter ce genre d'outils aux habitants.
Tout public.
Ouais,
d'accord.
C'est pour les personnes qui sont un peu en précarité énergétique, notamment pour sensibiliser et pour qu'il y ait moins de personnes en difficulté, notamment au niveau des énergies.
Ok, alors ça se passe comment ? Vous faites du porte-à-porte ? Vous allez dans des structures ? Vous animez des groupes de parole ?
Alors oui, on peut faire du porte-à-porte, on peut faire des animations collectives, on peut être amené à intervenir dans des écoles aussi, des centres sociaux, des maisons de quartier. On a vraiment... On n'a pas de lieu spécifique, en fait. On est amené à être partout. On peut être dans la rue, sur des mobilisations de rue, sur un temps de marché, voilà.
Avec quels outils vous parvenez à agir sur les comportements du quotidien ? Est-ce qu'il y a quels outils vous transmettez aux habitants pour les aider ?
Eh ben, en fait, les volontaires, ils travaillent sur des supports, sur des outils qu'ils créent. Donc, ils ont créé des jeux, notamment des jeux revisités.
Ouais.
Ils créent des flyers. C'est eux qui créent, en fait, leurs propres outils pour sensibiliser les personnes. Comme
d'accord.
Ça, ils s'approprient, en fait, leurs outils et ils arrivent plus facilement à les transmettre et à échanger ensuite avec les habitants.
D'accord. Alors toi, Antonin, tu es en service civique VTEE, justement, transition énergétique et écologique. Première question, qu'est-ce qui t'a amené à choisir cette mission bien particulière ?
Alors moi, au tout début, j'ai voulu faire un BTS
ouais.
En alternance. Mais avec la période actuelle, j'ai pas réussi à trouver un terrain d'apprentissage. Et autour de moi, j'avais plusieurs amis qui avaient déjà fait un service civique, pas unicité spécialement. Donc j'ai commencé à me renseigner sur le site Service Civique, justement.
Ouais.
Et je suis tombé justement sur Unicité et toutes les missions qu'ils proposaient, j'ai trouvé ça plutôt intéressant parce qu'on a quand même un choix assez intéressant. On peut vraiment toucher à tout.
Ouais.
Et cette mission VTE, elle me parlait un peu plus que les autres parce que déjà dans mon entourage, on fait attention à tout ce qui est le monde de l'écologie en général.
Ouais.
Et ça m'a vraiment parlé directement et c'est pour ça que maintenant, je me suis inscrit. Et ça te
plaît du coup ?
Ouais.
Est-ce que tu penses que ton service civique peut vraiment aider les gens à adopter de nouveaux comportements ? Est-ce que ça va rester chez les jeunes qui peuvent être en contact avec vos animations ?
Oui, je pense parce que je sais que moi, déjà plusieurs jeunes, on accompagne aussi pendant... on fait de l'aide aux devoirs.
Ouais.
Et on accompagne, on parle et on sent que les jeunes... plus on les côtoie, plus ils sont intéressés par ce qu'on fait. Et donc forcément, au fond d'un coin dans leur tête, ils se disent l'écologie, c'est important. Réduire sa consommation d'énergie, c'est important.
Ouais.
Donc je pense que c'est pas inutile.
D'accord. Alors un petit peu dans la même veine, hein, du coup, on parle de transition écologique, de vert. On a la mission anti-gaspi avec toi, Isabelle, qui est coordinatrice principale, à Unicité toujours, une mission qui est en lien avec Solidary Food et la ville d'Angers, Papillote et compagnie, c'est ça ?
Exactement.
Qui distribue les repas du coup aux collectivités. C'est quoi le principal objectif de ce volet chez Unicité ?
L'objectif du programme, c'est vraiment la réduction du gaspillage alimentaire, c'est accompagner les enfants et les adultes à mieux manger.
Ouais.
Parce que donc, dans le gaspillage alimentaire, il y a ce que l'enfant, par exemple, va jeter sur son plateau à la fin du repas parce qu'il a eu les yeux, par exemple, plus gros que le ventre.
Ouais.
Mais il y a aussi tout le non-servi. C'est-à-dire qu'un enfant ne va pas forcément manger toute la part qui était prévue pour lui et nous, on va essayer de l'amener à découvrir des aliments qu'il ne connaît pas, à goûter quelque chose qu'il n'aurait peut-être pas eu envie de goûter,
ouais.
à l'éduquer en fait à des fruits, des légumes qu'il ne connaît pas, pour le côté mieux manger et donc réduire le gaspillage alimentaire. Et en parallèle, c'est étudier un peu pourquoi le gaspillage alimentaire est présent, qu'est-ce qui remplit les poubelles, est-ce que c'est des parts trop importantes prévues pour les enfants, est-ce que c'est l'éducation par exemple à l'alimentation qui pêche, et c'est là que les volontaires vont intervenir à travers des pesées.
D'accord.
En début de projet et en fin de projet. Et au milieu, on fait une période de sensibilisation pour essayer de changer un peu les comportements. Et donc, les peser avant-après, on essaie de voir un peu l'impact et ouais. l'objectif. C'est une réduction de 30% du gaspillage alimentaire.
30%.
Ouais.
D'accord. Mais du coup, là, on parle à un public qui est beaucoup plus jeune, hein, qui est très ciblé.
Absolument.
Ouais. Alors toi, Ruth, du coup, tu es volontaire en service civique pour la mission anti-gaspi, justement, à Unicité.
C'est ça.
Un peu la même question qu'à Antonin. Quelles ont été tes motivations pour rejoindre cette mission plutôt qu'une autre ? Tu avais des aspirations particulières ? Tu étais sensibilisée déjà à ces problèmes de gaspillage alimentaire ?
Sûrement un petit peu, je pense, ouais. plus ou moins, que ce soit de près ou de loin. Je pense qu'on est tous un petit peu, on en entend tous un petit peu parler de tout ce qui touche à l'environnement, à l'écologie, tout ça. Et de base, moi, en fait, je me suis engagée dans le service civique parce que donc j'étais en transition pour pouvoir m'insérer sur le marché du travail. Mmh. Et j'ai passé un concours que je n'ai pas eu. Et donc c'était l'occasion pour moi en fait justement de passer un service civique et de m'engager dans quelque chose qui me plaisait vraiment, donc le gaspillage alimentaire.
Et du coup ça a un impact sur ta destination professionnelle pour la suite de faire ce service civique ?
Je dirais que en tout cas ça m'a permis de me poser cette année et de vraiment réfléchir à ce que je voulais faire, à ce qui me plaisait vraiment.
Ouais.
Ça a un impact forcément sur mes idées professionnelles, on va dire, mes projets professionnels.
Ouais. Parmi les gestes que tu transmets aux jeunes enfants, est-ce qu'il y a des actions particulières qui te marquent, qui reviennent assez souvent et que...
Après, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, surtout des animations donc ludiques.
Ouais.
Les enfants, ils ont vraiment soif d'apprentissage, ils sont hyper curieux, donc ça, c'est super, ils sont très réceptifs. Donc, on va passer par des quiz comme les quiz scouts. Ça permet une interaction très facile avec les enfants. C'est en fait sur Internet, ils utilisent des tablettes pour pouvoir répondre. Donc, ouais. déjà, il y a une approche. Enfin, on s'adapte à eux. Ils utilisent beaucoup la technologie. Donc, on essaie de passer par ça pour les intéresser à cette thématique. Et après, ça va être des jeux de société comme le jeu de loi, ce qu'on a dit tout à l'heure, revisité pour justement cibler sur la thématique en question.
Encore mille merci d'être venu sur Génération. Je rappelle qu'Émilie, tu es la coordinatrice du programme VTEE, donc volontaire de la transition énergétique et écologique. Que toi, Antonin, tu es en service civique pour cette mission.
Exactement.
Ruth, toi, tu es en mission anti-gaspi coordonnée par Isabelle. Merci à vous.
Merci.
Merci beaucoup.
On parle beaucoup d'unicité pour évoquer le service civique, mais il est possible de le faire ailleurs, comme à la Fédération des œuvres laïques 49. Et Aurélie Pelletier, volontaire là-bas, a souhaité nous partager son expérience.
Alors déjà, moi je me présente, voilà, je m'appelle bien Aurélie. Donc je suis en service civique donc au sein de la FOL 49, donc c'est la Fédération des œuvres laïques donc du 49. Et moi je suis un peu sur le secteur fédératif jeunesse. Alors comment j'en suis arrivée là ? En fait, avant de faire ça, je travaillais en fait. Et je savais pas trop ce que je voulais faire. J'étais un peu en réflexion sur mon avenir. Et en fait, au début, j'avais des projets un peu de formation, des choses comme ça, mais ça a pas trop abouti. Et je me suis dit, voilà, je suis jeune, j'ai envie de donner de mon temps pour quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais faire, quoi ? Et le service IC, j'en avais entendu parler au lycée. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça maintenant ? Ça peut être une bonne occasion pour moi un petit peu d'être un peu plus autonome, d'acquérir un petit peu de nouvelles compétences. C'est comme une expérience, On n'en fait qu'un dans sa vie, donc je me suis dit, allez, c'est le moment, faut se lancer.
En quoi consistent tes missions au sein de la Folle 49 ?
Du coup, dans un premier temps, c'était en fait de prendre contact avec des structures jeunesse, donc des établissements scolaires, maisons de quartier, missions locales, enfin bref, où il y a des jeunes, pour proposer en fait des rendez-vous et pour mettre en place des interventions, des temps d'échange et d'information du coup sur la question un peu de l'engagement auprès de jeunes. Donc ça passe notamment par des dispositifs comme le service civique, junior association ou même d'autres dispositifs d'engagement volontaire comme le corps européen de solidarité, etc. Ou même du bénévolat. On veut parler du bénévolat, qu'est-ce que ça implique? Dans quelle structure on peut faire, comment on peut un peu démarcher, comment ça se passe au niveau des démarches. Et du coup, le rôle, voilà, c'est vraiment d'avoir plus un rôle d'information, de sensibilisation, de promouvoir certains dispositifs pour que les jeunes, voilà, ils savent qu'il y a des dispositifs qui existent, qu'est-ce que sont ces dispositifs, comment ils peuvent y accéder, essayer un petit peu de nourrir chez eux un peu une réflexion sur ce sujet.
Merci beaucoup Aurélie pour ton témoignage. Avant d'entendre les Nox et d'accueillir Pascale Richard, la directrice de la mission locale angevine, Mehdi, tu nous proposes de découvrir ce qu'est Sociabim.
Sociabim est un projet qui est à l'initiative de 6 étudiantes et nous avons la chance de recevoir Lucie, Cindy et Claire pour nous en parler. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Bonjour Cindy.
Bonjour.
Et bonjour Claire.
Bonjour.
Vous êtes toutes les trois dans une licence sciences sociales, animation sociale, éducative, culturelle et des loisirs, un sacré intitulé pour une licence qui met en éveil la curiosité de nos auditrices auditeurs. Alors en quoi consiste votre licence ?
En fait, nous on est arrivés en troisième année, parce que c'est une licence 3, licence professionnelle. Mais en gros, c'est vraiment pour nous apprendre tous les métiers qui sont en lien avec le social, le culturel et le sportif. Donc on fait vraiment plein de choses et après on se spécialise un peu dans nos stages, parce que du coup on est 50% du temps au moins cette année en stage.
C'est à l'occasion de cette licence que vous avez créé le projet Sociabim ?
Alors... Donc on s'est rencontrés en fait dans la licence et on a décidé, on partageait les mêmes valeurs en fait. Donc on a décidé de rejoindre Claire et Lucie qui étaient plus à l'initiative du projet, qui avaient envie de viser ce public-là. Donc on est 6 dans le groupe, hein. Il y a 3 personnes qui ne sont pas là aujourd'hui et on partage toutes les mêmes valeurs et c'est pour ça qu'on veut sensibiliser à l'intégration des jeunes étrangers.
Et en quoi consiste précisément en fait ce projet ?
Notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser les gens à l'intégration des jeunes étrangers. Donc du coup, on mène plusieurs actions en place qu'on fait aujourd'hui via la plateforme Teams. Et donc, où on propose différentes activités, donc notamment une activité théâtre, une activité bataille des cultures, une activité débat, échange, une activité aussi photo-langage, où finalement on va amener les personnes présentes à parler sur leurs expériences, sur leur vécu. On va échanger ensemble. On va pouvoir aussi répondre à certaines questions. Et l'objectif, c'est vraiment d'amener les personnes à se rencontrer sur ces activités-là. Et pourquoi pas à se rencontrer en dehors aussi de ces activités-là. C'est pour ça qu'on a également créé un groupe sur Facebook qui permet aux gens qui s'y inscrivent de pouvoir discuter avec des personnes étrangères et de pouvoir aussi partager leur réseau pour les aider, etc. Enfin, c'est vraiment un groupe d'entraide aussi qu'on a créé sur Facebook et qui s'appelle Sociabim Échange.
Et l'intérêt du projet Sociabim, c'est faire se rencontrer des étudiants étrangers entre eux ou faire rencontrer des étudiants étrangers avec des étudiants français, ou bien les deux ?
Alors, c'est les deux. Tout le monde se rencontre. Nous, on vise un public de 15 à 29 ans dans le Maine-et-Loire. Donc, c'est vrai que c'est ouvert vraiment à tout le monde. Les étrangers peuvent s'aider entre eux, les personnes de nationalité française peuvent aider les étrangers et vice-versa en fait. C'est vraiment, on cherche vraiment le partage, la solidarité et beaucoup d'échanges des différentes cultures à travers nos activités. Donc nos activités, elles se déroulent du 2 mars jusqu'au 2 avril. Et il faut savoir qu'on fait aussi intervenir des professionnels, quelques professionnels qui vont parler de leur métier, de ce qu'ils ont vécu avec les différents jeunes, parce qu'on a beaucoup, on a aussi des professeurs, enfin, on a vraiment beaucoup de partenaires, et du coup, ils interviennent les vendredis aux hebdos.
Et Oui, vas-y. Ouais.
Non, je disais aussi, c'est pas forcément qu'avec les étudiants, en fait. C'est vraiment pour tous les jeunes. Okay. Mais s'il y a des personnes qui ont plus de 29 ans ou moins de 15 ans, elles peuvent quand même venir. C'est vraiment juste, nous, notre cible, c'est ça, parce que... Enfin, c'est ça, c'est eux. Parce que c'était notre souhait. Mais vraiment, on ferme la porte à personne. S'il y a une personne qui a 50 ans, qui a envie de découvrir un petit peu, d'apprendre à connaître du monde, d'en apprendre plus sur lui-même aussi... nous on est complètement ouverte et on dit mais venez, parce que c'est en ayant le plus de monde possible qu'on va vraiment pouvoir créer des rencontres et se dire ouais, on a réussi notre projet en faisant du lien social quoi.
On parle beaucoup des étudiants parce qu'en fait en ce moment c'est compliqué pour eux et puisqu'on ne peut pas réaliser nos activités en présentiel, ce qui était prévu au début, du coup on est sur Teams, et puisque les étudiants sont beaucoup sur Teams, c'est vrai qu'on a tendance à beaucoup plus parler de notre public étudiant, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus ouvert. Et surtout on est très actifs sur la page Instagram. Sociabim, donc c'est vrai que bon, c'est un peu, enfin ça attire plus les jeunes Instagram, enfin surtout voilà en ce moment, donc c'est plus pour ça, mais vraiment oui c'est comme disait Lucie, c'est ouvert à tous.
Vu que c'est en distanciel à travers la plateforme Teams, comment vous mettez en place les actions, par exemple pour le jeu de théâtre, ça doit être un peu compliqué?
Pas du tout. Alors du coup, c'est une activité qui a déjà été réalisée et elle a beaucoup plu, puisqu'on a proposé des petits jeux, des petits jeux de rôle. On a fait participer l'ensemble des personnes qui étaient présentes à l'activité ce jour-là. Et donc, on proposait de faire que chacun disait un mot qu'il avait envie de dire, où il y avait des mots imposés. On devait faire une longue histoire. Ou encore, qu'est-ce qui a beaucoup plu, des mimes. Alors oui, je sais, ça peut être étrange, mais c'est vrai que c'était vraiment un moment de rire. On s'est vraiment bien amusé et même à travers, même si c'est compliqué de faire en distanciel, au final, c'était assez fluide. Ouais. Et ça s'est très bien déroulé.
Moi, il y a une activité qui m'a interpellée sur le calendrier. C'est le speed dating qui aura lieu le mercredi 24 mars prochain. Et on aimerait en savoir plus sur cette activité.
Alors, speed dating, c'est pas un speed dating type comme les applications de rencontre. Ouais. Ce genre de choses, c'est vraiment pour se rencontrer, où on va créer des... sur Teams, on peut créer des espèces de petites salles dans lesquelles des gens vont et viennent. Et l'objectif, c'est vraiment de se présenter, dire ce qu'on aime, présenter des choses qu'on fait, par exemple, pour donner envie aux autres de découvrir des choses, etc. Mais on a appelé ça un peu speed dating, effectivement, aussi pour la blague, parce que c'est vrai que ça ressemble beaucoup à ce type un peu d'intervention. Mais bon, après, on ne sait jamais. Hein. Ouais. Ça peut peut-être créer des choses, mais ce ne sera pas volontaire de notre part.
C'est vraiment dans l'objectif de créer du lien. Donc, speed dating, ouais. On peut croire que c'est voilà, une relation amoureuse, mais pas du tout. Là, c'est vraiment speed dating, créer du lien avec tout le monde.
Est-ce que vous avez un petit mot pour conclure, peut-être une question que j'ai oubliée?
C'est-à-dire le petit slogan.
Yes.
Donc, que la phrase type de Sociabim qui porte vraiment tout notre projet, c'est intégrer, c'est échanger. C'est d'abord échanger. Donc, intégrer peut avoir vraiment un double sens. On peut dire, ouais, mais on force un peu les gens à s'intégrer. Mais nous, c'est pas du tout notre souhait. C'est vraiment nous, en tant que personnes d'origine française, on découvre les cultures d'origine étrangère. Et inversement, c'est que tout le monde se construise ensemble. C'est vraiment notre idéal de se dire tout le monde va apporter quelque chose à tout le monde. Et donc, on va finir par s'intégrer tous ensemble. Mais quel que soit le pays d'où on vient, quelle que soit la langue dont on parle, qu'on parle, etc., etc.
On veut diriger les autres vers une ouverture d'esprit.
Ouais.
Seul, on est fort, certes, mais tous ensemble, on est encore plus fort. Et il faut pas laisser les gens de côté, en fait. On a chacune vécu différentes choses et on veut pas laisser les gens de côté. Et puis en fait, on est une force. Il faut qu'on donne notre force à ceux qui se sentent seuls. Et le fait de faire ces activités, en fait, il y a plus de solitude. Tout le monde vient. Ils viennent quand ils veulent, aux activités qu'ils veulent. Et c'est que du bonheur, quoi.
Ouais. Est-ce que vous pouvez nous dire aussi, on peut vous trouver sur les réseaux sociaux?
Ouais, complètement. Donc sur Instagram avec socia-8bim. Donc sur Facebook, comme disait Claire, sur Sociabim Échange. Et on a également la page qui reprend un petit peu les publications d'Instagram. Donc là-dessus, on est super présente. on répond aux messages, on fait des stories, des petits jeux, des petits challenges, et puis on parle surtout des activités. Donc voilà, là il y a pas mal de choses à venir aussi, des vidéos culinaires, etc. etc.
Ben merci les filles.
Merci à vous, merci beaucoup. C'est super.
L'étrier est le plus petit os du corps humain. Maintenant que nous avons réveillé votre attention, je vous propose de monter le son pour entendre ce qui va venir, mais pas trop fort, parce que ce sont précisément les noxambules qui vont nous expliquer tous les risques liés à l'audition, surtout quand on est jeune. Mise en situation, un soir de la fête de la musique, dans les rues d'Angers.
Salut, tu connais les noxambules ?
Non, t'es qui ? C'est quoi les noxambules ?
On est une équipe de prévention de la ville. On intervient sur l'espace public certains soirs pour parler aux jeunes de tous les risques liés à la soirée. On aborde les addictions comme le tabac, les drogues, l'alcool, mais aussi la santé sexuelle, les risques auditifs et le sommeil.
Les risques auditifs ? Pourquoi vous en parlez ? Moi, si je fais des soirées, c'est pour écouter du gros son.
Bah, justement, pour toi, ça sert à quoi d'entendre ?
Bah, du coup, à écouter du gros son, de la musique, à discuter, à appréhender mon environnement, quoi.
Oui, c'est ça, à prévenir du danger, ressentir du plaisir, se sociabiliser. Tu connais les différents risques auxquels tu exposes ton audition ?
Bon, non, je risque pas d'être sourd, hein, j'ai pas 60 ans.
Alors, on estime que 25% des jeunes entre 15 et 25 ans auront des troubles précoces de l'audition.
Mais
ça veut dire qu'au lieu d'avoir des pertes d'audition vers 60-65 ans, ils en auront vers 30-35 ans. Ce sont des risques très banalisés et pourtant très présents. Comme par exemple quand tu vas en concert ou en boîte, des fois t'entends pas des bourdonnements ou des sifflements après.
Ouais, si, ça m'est déjà arrivé, mais le lendemain, tu vois, c'est parti.
Alors ces bourdonnements, ce sont des acouphènes. C'est une interprétation de ton cerveau lorsque tu as été exposé à un son trop fort ou trop longtemps. À l'intérieur de ton oreille interne, tu as des cellules ciliées qui bougent plus ou moins intensément en fonction des ondes du son. Pour que tu visualises, tu vois un champ de blé ?
Ouais.
Imagine le vent qui souffle sur ce champ de blé. Les épis bougent avec le vent, mais avec une tempête, ils se rabattent. Certains s'arrachent, et d'autres ont du mal à se redresser. Donc voilà, c'est la même chose dans ton oreille. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les cellules qui s'arrachent ne se régénèrent pas. Les premières à s'arracher sont celles qui interprètent les sons aigus. Si tu as des acouphènes, le lendemain, il est préférable que tu ailles chez ton médecin.
Ouais, mais enfin, tu vois, si je vais pas en concert tous les 4 matins...
Alors, tu t'exposes pas au risque que dans les concerts. Chaque son s'accumule. On expose son oreille à des risques à partir de 85 décibels. En concert, c'est réglementé à 102 décibels, mais par exemple, si tu écoutes de la musique au masque dans ton casque, c'est 100 décibels.
Ah, mais c'est pour ça que j'ai un message d'alerte quand je monte le son ?
Oui, ce message est là pour réduire les risques de perte d'audition. Et donc, pour protéger tes oreilles, tu peux soit baisser le son, soit réduire ton écoute à 4 heures au casque par semaine, si tu écoutes à fond. Tu peux aussi compresser ta musique en meilleure qualité pour bénéficier au maximum des fréquences de tes morceaux préférés. Tu auras moins besoin de monter le son pour ressentir des sensations. Quand tu vas dans les paramètres de ta plateforme de streaming, tu peux changer la qualité sonore de tes musiques pour éviter d'écouter trop fort.
Ah mais trop cool, merci pour l'astuce. Et du coup les bouchons d'oreilles là que tu distribues, tu m'en parles même pas. Alors que c'est ça avec les capotes, les éthylotests et tout que vous donnez, non ?
Oui, effectivement, les bouchons permettent de réduire de 20 à 30 décibels les sons perçus. C'est pourquoi on en distribue et on en trouve en festival pour ne pas dépasser les 85 décibels. Après, si jamais tu ne souhaites pas en mettre, tu peux faire 15 minutes de pause toutes les heures pour reposer ton oreille.
Ok, les casques, on voit ça aussi dans les festoches ?
Oui, c'est généralement pour les enfants car eux peuvent mettre que des moitiés de bouchons d'oreille. Mais des fois, tu peux être confronté à des gens qui sortent de chez eux avec un casque parce que certains sons deviennent insupportables pour eux. Ils sont atteints d'hyperacousie.
Attends, ça veut dire que l'hyperacousie, c'est quand on entend des sons plus forts que la normale ?
Oui, c'est ça. C'est aussi un des risques de l'exposition à des sons trop forts ou trop longtemps. Avec donc la surdité précoce et les acouphènes.
Ok, donc si je résume, pour me protéger de tout ça, soit à l'avenir je peux baisser le volume, soit faire des pauses, modifier la qualité de compression quand j'écoute de la musique au casque, ou alors mettre des bouchons d'oreille ou un casque.
Tout à fait, j'espère que ces infos te seront utiles. En tout cas, ça a été un plaisir d'échanger avec toi. À très vite.
Vous venez sûrement de baisser le volume de votre appareil sonore hein, pour protéger vos oreilles à l'écoute de cette chronique. Enfin, bah, pas trop non plus, hein, parce qu'il faut quand même écouter ce que les noxambules nous disent. Si je comprends bien, la perte d'audition, c'est quelque chose d'inéluctable avec l'âge, mais rien d'inquiétant. Sauf si on écoute trop fort et pendant trop longtemps la musique, aussi bonne soit-elle. En apprenant ça, comment peut-on savoir si j'ai un peu trop abusé du volume max de mes écouteurs ?
Alors, petite info en plus, pour faire tester votre audition, vous pouvez rencontrer un médecin ORL ou encore faire un dépistage de votre audition lors de la journée nationale de l'audition le 11 mars.
Où est-ce qu'on peut retrouver les Noxambules ?
Dès que ça sera possible, les mercredis et jeudis soirs dans le centre-ville d'Angers. En ce moment, on fait des actions dans des lycées et maisons de quartier et on est actif sur nos pages Facebook et Instagram qui s'appellent les Noxambules. N'hésitez pas à nous écrire si vous avez des questions ou des besoins.
Nous accueillons Pascale Richard dans Génération sur Radio G. Vous êtes la directrice de la mission locale Angevine, plus communément appelée MLA, et qui se propose d'accompagner les jeunes dans leurs choix professionnels. Avant de voir plus en détail certains dispositifs, est-ce que vous pouvez nous rappeler, et surtout expliquer à nos jeunes auditeurs, le rôle que peut avoir la mission locale Angevine dans leur parcours ?
Bonjour à tous tout d'abord. Donc la mission locale Angevine est une association qui a un service de mission de service public qui est d'accompagner tous les jeunes de 16 à 25 ans qui se trouvent en dehors du système scolaire, en dehors d'un parcours d'études, pour les aider à trouver leur voie, réfléchir à leurs projets et engager des démarches vers un objectif professionnel. La particularité d'une mission locale, c'est de ne pas parler néanmoins que de cet aspect professionnel, mais de réfléchir, d'aider le jeune à régler un certain nombre d'autres difficultés, de réfléchir à d'autres sujets, ça peut être des sujets dans sa vie sociale, personnelle, et d'avancer avec lui aussi sur ces thèmes-là.
Alors justement, le terme Angevin-Angevine dans MLA recouvre quelle réalité géographique ? Ça s'arrête à quel secteur les activités de la mission locale ?
Alors les missions locales, c'est intéressant à savoir, elles sont présentes sur tout le territoire français. Il y a toujours une mission locale proche de chez vous. Pour la mission locale Angevine, c'est plutôt Angevine dans le sens Anjou, même si ça peut créer plein de discussions. Alors pour être plus concret, on est présent sur l'agglomération d'Angers-Loire-Métropole, donc la ville d'Angers et toutes les communes qui dépendent de l'agglo. On est présent également sur Loire-Layon-Aubance, donc toute la communauté de communes qui va de Saint-Georges, Chalonne, Brissac, Toircé. Alors je dois Belvigne-en-Layon pour être précis. Et puis on est présent aussi sur Anjou-Loire-Sarthe, donc Thiercé, Durtal, Seiche. Et tout un ensemble de communes autour de Beaufort-en-Anjou également.
Donc plusieurs antennes, un point central et différentes antennes dans ces différents territoires. La mission locale, ce sont des conseillers, mais la question qu'on se pose, c'est quel conseil prodigue-t-il ou elle et comment se concrétise l'action d'accompagnement des jeunes ?
C'est un peu d'être un fil rouge pour le jeune, en fait. Moi, j'aime bien cette idée du fil rouge. C'est quelqu'un d'abord qui va accueillir, qui va écouter, qui va aider le jeune à engager des choses et qui va... l'offre d'action, de dispositifs, elle est très importante, surtout quand on a la chance d'être sur une ville comme Angers. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être proposées aux jeunes. La question, c'est par quoi commencer ? Qu'est-ce qui me convient ? Qu'est-ce qui me fait envie ? Est-ce que je suis mûre pour telle ou telle démarche ? Et en fait, c'est ce chemin que le conseiller va faire avec le jeune pour lui proposer un certain nombre de choses à un moment donné, quand ce sera le bon moment, en fait, et aussi quand ça viendra, quand ça correspondra à une vraie motivation du jeune.
Vous proposez également différents dispositifs qui permettent de faire le point sur ses choix d'orientation, sur son parcours. Quels sont ces dispositifs, justement ?
Alors, il y a plein de choses qui existent. Ça peut aller d'actions de formation, qu'on appelle des formations d'orientation, qui sont financées par le conseil régional. Ça peut être des actions plus pour prendre confiance en soi, pour réfléchir à ce qu'on aime faire, à quelles sont ses compétences. On peut être sur des actions qui sont vraiment encore à l'état du projet, en fait. On ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, on cherche ses marques. Et puis, quand les choses se concrétisent, on peut, grâce au soutien de la mission locale, découvrir des métiers, rencontrer des professionnels, être parrainé, par exemple, par un professionnel d'un secteur qui peut nous attirer. Donc, on va affiner son projet, ça va devenir de plus en plus concret, jusqu'à, bien sûr, vous accompagner dans une recherche d'emploi en bonne et due forme.
Alors, justement, est-ce que vous avez une idée précise du nombre de jeunes qui profitent de l'accompagnement de la mission locale Angevine et surtout un retour d'aboutissement par rapport à cet accompagnement-là.
Oui, alors pour donner un ordre de grandeur, la mission locale Angevine accompagne à peu près 5300 jeunes par an. Ça veut dire qu'il y a au moins ce nombre de jeunes, plus de 5000, qui sont venus au moins une fois dans l'année et qui ont engagé des démarches. Alors certains ne seront venus qu'une fois et puis d'autres seront dans des accompagnements beaucoup plus réguliers, beaucoup plus intensifs. Après, mesurer notre action, c'est toujours difficile. On va d'abord avoir connaissance de ce que les jeunes voudront bien nous dire, ensuite sur leur parcours, quelles actions ils ont mis en œuvre, quelles formations ils ont décrochées, quel emploi ils ont décroché. Certains nous tiennent au courant, d'autres moins, une fois qu'on a la réussite, une fois qu'ils ont eu ce qu'ils espéraient. Mais oui, on a différents indicateurs pour voir quel est l'accès à la formation, à l'emploi, au service civique des jeunes que l'on accompagne.
Alors, j'imagine que même avec la meilleure volonté du monde, la mission locale doit se confronter à un problème de taille. Comment détecter des jeunes qui se retrouvent déjà en dehors de tout programme scolaire ou de cursus de formation ?
Oui, effectivement, c'est ça, une de nos difficultés, c'est ça. On est un, comme je l'ai dit, un service public, c'est même un droit. Hein. Tous les jeunes de 16 à 25 ans ont ce droit à l'accompagnement, d'être accompagnés par un professionnel qui va les aider dans leur parcours. On est bien sûr un service gratuit, totalement gratuit, et pour les jeunes et pour les employeurs auxquels on rend également des services. Et effectivement, il faut qu'on soit connu, le bouche à oreille fonctionne plutôt bien. Et puis, dans notre fonctionnement, à la mission locale Angevine, on est très implanté localement. Vous parliez de nos implantations, on a presque une trentaine d'implantations sur le territoire que j'ai décrit tout à l'heure. Et à chaque fois, notre conseiller, notre conseillère va vraiment tisser des liens importants avec des structures qui peuvent elles-mêmes rencontrer des jeunes ou rencontrer des familles dont les jeunes auraient des difficultés sur le marché du travail. Et donc c'est tout ce tissu de partenariat qui va faire que des assistants sociaux, des médiateurs sportifs, par exemple, ou des éducateurs spécialisés ou des associations caritatives vont dire aux jeunes « Tiens, au fait, est-ce que tu as pensé à la mission locale ? Il y en a une dans notre quartier, il y en a une dans notre commune, je te conseillerais d'y aller. »
Donc un réseau bien tissé, des actions de communication. Et justement, jusqu'au 10 juin, sur Radio G, la MLA va intervenir dans cette même émission de Génération. Quels points vont être abordés pour renseigner les jeunes, pour informer les jeunes sur les actions de la mission locale ?
Alors, on vous remercie surtout de nous proposer ces moments d'antenne pour faire connaître un peu plus les différentes actions, différents dispositifs qui peuvent intéresser des jeunes. Donc, on a réfléchi ensemble et on vous proposait trois thèmes. Le premier thème, on en entend beaucoup parler, c'est ce qu'on appelle la garantie jeune. La deuxième séance, elle a pour objectif d'informer sur tout un ensemble de nouveautés qui se mettent en place pour les jeunes mineurs, donc les 16 ans, 18 ans. Une nouvelle plateforme gouvernementale qui s'appelle Chacun sa solution pour les 16-18 qui vient d'être lancée. De l'apprentissage, peut-être de l'alternance en général. On ne va pas rentrer dans les détails techniques, mais il y a plusieurs dispositifs d'alternance. Et en particulier, depuis deux ans maintenant, les centres d'apprentissage ont développé un parcours qui s'appelle Prépa Apprentissage et qui est vraiment une façon de donner le temps aux jeunes de préparer leur projet d'apprentissage, de mûrir leur projet. Et ça donne de très bons résultats.
Merci beaucoup, Pascale Richard, directrice de la mission locale Angevine, d'être venue sur notre antenne pour présenter vos actions à destination des jeunes en questionnement sur leur orientation.
Une minute pour l'emploi, la chronique conseil avec Pôle emploi.
Voilà, je souhaiterais monter en compétences en suivant des formations à distance et je me dis que c'est une bonne idée. Vous en pensez quoi, Bouchra ?
En effet, les formations à distance sont de plus en plus nombreuses, variées et accessibles au plus grand nombre. Que vous soyez en recherche d'emploi ou de reconversion, il existe des formations à distance de durée différente, de tout niveau et d'intensité variable. Comme en présentiel, vous aurez des coachings, des cours complétés par des stages en entreprise et vous pourrez au bout du compte obtenir des qualifications supplémentaires ou différentes. Vous pouvez d'ailleurs commencer par suivre des MOOC qui vous donneront un bon aperçu de ce qu'est une formation à distance. Vous trouverez de nombreuses formations dans le numérique, ça paraît évident, mais aussi dans des secteurs plus inattendus comme ceux du bâtiment, de l'éducation ou du soin. Alors, plus d'excuses, si le centre de formation est trop loin de chez vous, renseignez-vous, vous serez étonné de ce que les services publics de l'emploi ont à vous offrir.
C'était Une Minute pour l'Emploi avec Pôle emploi. Plus d'informations sur le site uneminutepourlemploi.fr.
Pierre Benoît, je te propose de découvrir maintenant avec Alia ce que sont les CPS, les compétences psychosociales.
Nous accueillons donc Marie-Dominique, infirmière, et Karina, éducatrice spécialisée, toutes deux intervenantes en prévention à Alia.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fait-on de la prévention auprès des publics jeunes en 2021 ?
Mais aujourd'hui, nous utilisons les compétences psychosociales, appelées aussi CPS, pour intervenir auprès de ces publics.
La prévention des addictions au travers des CPS consiste à intervenir précocement sur le bien-être social et émotionnel d'une personne, d'une part, et d'autre part, réduire les risques et les dommages liés à ses comportements et aux influences sociales.
C'est donner à chacun la possibilité de se créer sa boîte à outils en s'apprenant en tant que personne.
Pouvez-vous nous expliquer justement ce que sont les compétences psychosociales ?
Alors, les compétences psychosociales ont été définies en 1993 par l'OMS comme étant la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'occasion de relations entretenues avec les autres, sa propre culture ou encore son environnement. Aujourd'hui, l'OMS en identifie 10 principales qui vont par deux.
Savoir résoudre les problèmes.
Savoir prendre des décisions.
Avoir une pensée critique.
Avoir une pensée créatrice.
Savoir communiquer efficacement.
Être habile dans les relations interpersonnelles.
Avoir conscience de soi.
Avoir de l'empathie pour les autres.
Savoir gérer son stress.
Savoir gérer ses émotions.
Très bien. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de ces compétences ?
Face à une proposition d'expérience faite par une connaissance, un copain, un jeune qui a développé une pensée critique, une bonne estime de soi, sera plus en confiance pour affirmer son choix, quel qu'il soit. Ce choix viendra de lui et non pas du désir de se conformer.
Prendre soin de soi, écouter les émotions qui nous traversent, c'est aussi se poser des cadres en puisant dans ses expériences antérieures.
Alors, vis-à-vis du contexte actuel de confinement, de pandémie, de peut-être stress ambiant, pourquoi c'est aussi important aujourd'hui ?
Alors, au niveau des consommations, la distanciation sociale imposée reste un vrai défi pour chacun et encore plus pour les adolescents. On constate un impact plus ou moins important et identifié sur la santé physique et psychique. Remettre par le biais d'une prévention axée sur les CPS, des rituels, de l'écoute, c'est permettre que l'émotionnel, le ressenti, mais aussi les peurs se nomment et se partagent.
Ce travail peut alors apporter des réponses, des outils, à la mosaïque des questionnements de l'adolescent sur lui-même et ce qui l'entoure. Cela peut réintroduire une bienveillance vis-à-vis de l'autre, mais aussi envers soi, et pouvoir permettre une possible ébauche de prise en main de sa propre vie.
Ces compétences essentielles et transculturelles sont étroitement liées à l'estime de soi et aux compétences relationnelles.
Alors on parle plutôt des enfants pour l'instant, mais les adultes dans tout ça ?
Il n'est jamais trop tard pour les adultes, qu'ils soient parents, éducateurs, animateurs, pour travailler leurs propres compétences psychosociales. Car chacun d'entre nous avons des compétences. Ce travail autour des CPS, et notamment au travers de la prévention, permet de les faire émerger de manière ludique et gratifiante.
Travailler autour des CPS et permettre à l'autre de prendre conscience de sa valeur humaine.
Ça se matérialise comment ? Comment ça se concrétise l'animation de groupe avec les enfants pour, par rapport aux compétences psychosociales ?
Alors aujourd'hui, travailler autour des compétences psychosociales avec des enfants ou des adolescents, c'est mettre en place effectivement des ateliers qui vont être sur 5-6 séances minimum, durant lesquelles on va pouvoir travailler la question de l'estime de soi, la question de la relation à l'autre, notamment proposant des choses qui vont sortir de l'ordinaire et qui vont être autour du ludique. C'est-à-dire comment, à travers le jeu, à travers la possibilité de me mettre en scène et de m'apprendre, je vais pouvoir faire émerger les compétences que j'ai en moi.
Alors vous, Marie-Dominique, vous êtes plutôt sur un public jeune, mais un peu plus âgé, puisque c'est au collège, c'est ça ? Est-ce que ça fait une différence ? Est-ce qu'on aborde différemment les choses ?
On va l'aborder de la même façon, parce que on passe aussi par le ludique. On utilise des animations où on va les mettre en tout pareil, on les met en scène, on les fait interagir entre eux en ayant des supports pour pas qu'ils soient dans la difficulté. Le but, c'est qu'ils y prennent du plaisir et qu'ils s'aperçoivent qu'ils savent faire, qu'ils découvrent qu'ils ont ces compétences, qu'ils les mettent en œuvre, qu'ils apprennent ensemble à avancer et à gérer les difficultés, le quotidien, et de s'apercevoir par-dessus tout qu'ils en sont capables.
Très bien. Merci beaucoup Marie-Dominique et Karina, toutes deux, donc éducatrices spécialisées pour Karina et infirmières pour Marie-Dominique, intervenantes à Alia.
Merci. Merci.
G Génération touche à sa fin. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Vous pouvez d'ailleurs réécouter tous les podcasts des intervenants d'aujourd'hui sur le site de radio-g.fr, mais également nous suivre sur la page Facebook de l'émission Génération. Merci Mehdi de m'avoir accompagné pendant ces 40 minutes.
Merci à toi, merci à vous.
Au revoir.